Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons, Be'ezrat Hashem, donc parler de Hanouka. Et le cours s'intitule Pach Echad Shel Shemen, une fiole d'huile, avec l'insistance sur le terme Echad. Pach Echad, c'est pas Pach Shel Shemen, c'est pas une fiole d'huile, et ni petite fiole. Pach Echad. Pourquoi j'insiste? Parce que lorsque les sages choisissent des termes pour expliquer un sujet, eh bien le choix de leurs mots est très important. Et donc si les sages ont choisi d'écrire, de décrire les choses de telle façon, je n'ai pas le droit de changer. Quelle est cette signification? Hateva betaharato lifne kishlonosh al yedei chetos shel adam arishon. La nature, avant de tomber de son niveau par la faute du premier homme, c'est ce qu'on avait déjà commencé la fois dernière. Hayakaze, je fais très vite, shemitoch gvulotea umidotea metzumtzamot shel abriya yitzmach hanetzach shehu bilti gvuli. Que nous pouvions à cette époque-là voir l'infini dans le fini, même dans les limites de ce monde. Donc on pouvait voir l'infini dans la matière qui est, elle, limitée. Autrement dit, on voyait la grandeur dans la petitesse. C'était ça la force du monde avant la faute du premier homme. L'abstraction était visible malgré les mesures des choses, malgré les limitations des choses. Tout va dans le même sens. Mais voici que la faute, donc ce ratage en question a eu lieu, et a détérioré tout le système, Umeaz, et depuis cette faute-là, kol hayotze min haddevarim sheim ba'alek vul umida, hu hefsed vechidalon. On n'arrive plus à voir l'infini dans le fini. Au contraire, tout ce qui est fini a une vie limitée, et puis une fois qu'il a fini sa vie, il disparaît. Alors on n'arrive plus à voir la force infinie des choses. Veine, Hakadosh Baruch Hu betuvo hagadol. Malgré cela, Hakadosh Baruch Hu, par sa grande bonté, Hishir min haseder hamekori hataor etzem luz achat. Il a laissé comme mémoire de la situation qui était avant, il a laissé en mémoire un degré qu'on appelle le Etzem Alouz. C'est une expression en hébreu qui est comme l'os qui porte le cerveau de l'homme, toute la boîte crânienne de l'homme est posée sur cette charnière. C'est un os très secret qui tient en réalité, qui a l'axe entre la tête et le cou et le corps. Et chaque fois qu'un homme quitte ce monde jusqu'à 120 ans, bien que tous ses os se décomposent dans la terre, il reste un os qui, lui, reste tout le temps. On appelle ça donc le Etzem Halouz, un os comme une mémoire par laquelle Akadosh Baruch Hu va refaire vivre les morts. C'est-à-dire, c'est en utilisant cet os-là qu'Akadosh Baruch Hu va appliquer sa résurrection des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien entendu, ce n'est pas seulement une image réelle, physique. Okay, nous faisons un acte symbolique en mettant le vin, Motsaï Shabbat, pour toucher cet os-là. Mais en réalité, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il détruit un degré, il reste, malgré tout, une trace, une influence. Ça veut dire que rien n'est détruit totalement. Exemple, lorsqu'Akadosh Baruch Hu donc a fait chuter tous les mondes à cause de la faute du premier homme, il a laissé une mémoire. Cette mémoire s'appelle Israël dans le monde. Quand Akadosh Baruch Hu a détruit le temple de Jérusalem, il a laissé le Kotel. Donc le Kotel, c'est comme l'os du Louz, du Beth Amigdash tout entier. Okay? Ça veut dire que Etzem Alouz du Bet Amigdash, c'est le Kotel Maharavi. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va reconstruire le troisième temple, il va le reconstruire à partir de cette os-là qui s'appelle le Etzem Alouz. Et donc c'est une résurrection des morts qui vient toujours reprendre quelque chose qui reste intact, qui ne peut pas lui disparaître. Donc avec des mots simples, je résume. Jamais on peut détruire quelque chose complètement. Il reste toujours une trace au niveau de la Kedusha qui, elle, est intouchable. Personne ne peut atteindre ce degré-là. Vous avez compris? Bien entendu, vous comprenez que nous parlons ici d'une allusion à cette fameuse fiole. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse fiole en réalité? C'est le Etzem Halouz, c'est la même chose, c'est l'os, c'est la mémoire qui est restée après toute la souillure de toutes les huiles du Beth Amikdash. Autrement dit, quand les Grecs sont rentrés au Beth Amikdash et qu'ils ont rendu impures toutes les huiles, ils peuvent certainement le faire, mais il y a un degré qui s'appelle le Etzem Halouz, qu'Akadosh Baruch Hu cache, entre guillemets, que les Grecs ne peuvent pas, avec tous leurs efforts, atteindre. Etzem al-Louz, c'est un os, Etzem, qu'on appelle le Louz. La Mishnah Brura l'appelle Naskoy. Naskoy, que cet os n'a pas été endommagé en fait par la faute d'Adam Rishon. C'est pour ça qu'il reste et qu'il ne se détruit pas même après la mort. C'est vrai? Donc il restait une trace. Cet os-là. Et cet os-là, tu le retrouves en réalité dans tous les domaines de la vie. Ça veut dire au niveau du temps, quel est le Etzem Halouz? Quel est le temps qui nous rapproche? Il y a fait Shabbat. Shabbat, c'est le Etzem Halouz du temps. Ça veut dire que même si le temps a été détérioré, qu'il est tombé du Kodesh Ochol, il reste toujours un degré qui restait intact, qu'on ne peut même pas toucher. La preuve, c'est même pas nous qui fixons le Shabbat. Le Shabbat vient d'en haut. Donc quelque chose que je ne peux pas, moi, changer. Je ne peux pas décider que Shabbat, ça tombe dimanche. Donc je n'ai pas de contact avec ce degré-là. Il me vient par Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc s'il le vient par Akadosh Baruch Hu lui-même, ça veut dire que moi-même, je n'ai pas les kelim, les ustensiles, de détruire ou de détériorer quelque chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire profaner le Shabbat? Le Shabbat, je ne le profane pas. C'est Chas V'Shalom, si la personne profane le Shabbat, c'est la personne qui elle-même se ferme de ce contact avec l'infini, avec cette mémoire-là. Alors ça, c'est au niveau du temps. Au niveau de l'espace, où est le Etzem Halouz? La terre d'Israël. Dans la terre d'Israël, où est le Etzem Halouz? Yerushalayim. À Yerushalayim, où est le Etzem Halouz? Arabaï. Donc aujourd'hui, c'est le Kotel. Vous avez compris. Ça, c'est au niveau de l'espace. Donc on a vu temps, espace. Au niveau de l'homme, il est où le Etzem Halouz? La Neshama. Tu as beau faire ce que tu veux, tu peux fauter, tu peux faire ce que tu as envie, toute ta vie, Israël, afalpi shechata, Israël, hou. Toutes les fautes du monde ne pourront jamais t'enlever la neshama Israël que tu as en toi. Maintenant, vous comprenez que quand on parle à Hanouka du Etzem Halouz, quand on parle à Hanouka du Pach Echad Shel Shemen, eh bien, nous parlons de ce sujet-là. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Autrement dit, Hanouka, nous avons pu rallumer toute notre vie, grâce à quoi? Grâce à la mémoire que nous avons retrouvée. C'est-à-dire, on a repris contact avec ce Etzem Halouz, entre guillemets, avec ce point lumineux que nous avons à l'intérieur de chacun de nous, c'est-à-dire la Ségoula d'Israël, qui, elle, est imperturbable. On ne peut pas la casser, on ne peut pas la détruire, elle reste toujours intacte. Elohai Neshama Shenata Tabi. Donc un homme qui fait toutes les avérotes du monde, ça ne changera rien du tout. Il sera jugé par rapport à la neshama qu'il a. C'est ce qu'on appelle la segula. Donc, par echad shel shemen, c'est exactement ça. Et donc, il est resté cette mémoire, donc le etzem alouz, sheyesh ba adayin misgula tateva betaharato arishona. Donc il est resté avec la mémoire, avec la pureté première, Et c'est Am Israël, Eretz Israël, Torat Israël, Nishmat Israël. C'est-à-dire tous ces éléments que vous avez signalés à juste titre. Nishmat Am Israël hi she'erit apleta. La Neshama d'Israël, c'est en réalité la mémoire qui a été sauvée. Ze azikaron amusari hayachid shenishar ba'olam acharei kilkulo. Lorsque le monde a été détérioré, il a malgré tout gardé une mémoire, ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, pas tout le monde a été détruit. Il est resté une mémoire qui, elle, ne peut pas être détruite. Et donc, kedivre un Navi, comme dit le Navi, dans Shmuel Aleph 15, verset 29, Vegam netzach Israël lo yeshaker. L'éternité d'Israël ne peut pas mentir. Qu'est-ce que ça veut dire, l'éternité d'Israël ne peut pas mentir? Ça veut dire que l'éternité d'Israël est effectivement éternelle. Tu ne peux pas dire que c'est éternel si Israël s'arrête. Si Israël s'arrête dans l'histoire, ça veut dire qu'il y a un mensonge. Donc Israël ne pourra jamais s'arrêter dans l'histoire. Donc quoi qu'on fasse au peuple d'Israël, il restera toujours vivant. Et donc on chante « Am Israël Chai ». Qui peut mourir? Des Juifs, individuellement parlant. Mais la nation en tant que telle, elle ne peut pas mourir. Donc « Am Israël Chai ve Yehudim Metim ». D'accord? Je vais aller plus loin un petit peu. Si tu veux rester vivant, qu'est-ce que tu dois faire en fait? Te relier au Klal. Tout homme qui se sépare de Klal Israël, il s'appelle déjà mort. Parce qu'il est racha. Les fiches hotzi et atzmo mina klal, kafar ba'ikar, rechaim, afilu bechayehem kruim metim. Un racha, même de son vivant, il est appelé mort. C'est-à-dire, alors qu'un tzadik, puisqu'il est lié à la nation d'Israël, afilu bemitatam kruim chaim. Un tzadik, il est toujours vivant, même après sa mort. Yaakov avinu lo met. Comme ça nous dit la Gemara. Atruna Elohit Shebe Israël, donc la valeur divine qui se trouve dans cette nation, dans ce peuple, Yeshba Kor Legalot et Prinat Hanetzach, elle a en elle la capacité de l'éternité. Vealea Nehema, et sur cette partie-là, il est dit, Amzu Yatzar Tili Tehilati et Saperu. Prophète Isaïe, chapitre 43, verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? Amzu Yatzar Tili, je me suis créé, moi, l'Éternel, cette nation-là, ce peuple-là, pour moi. Yatzar Tili. Pourquoi faire Tehilati et Saperu? Pour qu'il raconte mon nom dans le monde. Autrement dit, Israël a été créé pour une raison bien précise. Israël a été fabriqué par Akadosh Baruch Hu comme un degré qui a un but déjà, même avant qu'il arrive dans ce monde. Ce n'est pas qu'on a créé un peuple et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec lui maintenant? À la racine même de la création du peuple d'Israël, Dieu pense au rôle que cette nation va jouer dans le monde. Et donc, il crée cette nation avec ce rôle. Intégré, avec une carte magnétique de Tehilati et Saperu. Vous êtes créé pour raconter ce que je suis dans le monde. C'est-à-dire, c'est vous le porte-parole de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire, Zeh haklal anishmati aganus beYisrael. C'est la valeur globale qui se trouve dans la nation d'Israël tout entière. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle la Ségoula. Cette ségoula existe bien avant que des juifs apparaissent dans le monde. On est d'accord? Les juifs qui apparaissent dans le monde, vous, moi, les enfants d'Israël, en réalité, nous sommes des rayons de cette ségoula. C'est vrai? Quand je dis que je suis un doigt, je suis obligé de dire que je suis un doigt de quelque chose, d'un membre quelconque, le doigt de la main. Je ne peux pas dire un doigt. Si je te dis un doigt, tu me demandes un doigt de quoi? Mais c'est la même chose. Quand tu dis un homme d'Israël, tu es obligé de dire un homme d'Israël. Tu ne peux pas dire un homme, on va te dire de quelle nation, de quelle race, de quelle racine. Autrement dit, j'existe que parce que je suis d'abord issu de ma nation. Quand tu dis un rayon, tu dois me poser de quoi? Ça peut être un rayon d'une roue de vélo. Et ça peut être un rayon de soleil. Mais c'est toujours de quelque chose. Ça veut dire que le global précède le détail duquel tu es en train de parler. Qui est avant qui dans ce monde? Le klal ou le prat? Donne-moi une preuve. Dans ce cours-là, maintenant, au Machon, qui a précédé les élèves que vous êtes ou le klal?
Le cours a précédé.
La notion du cours a précédé les élèves. Hein? Vous n'êtes pas réunis ici par hasard. C'est-à-dire, vous avez été réunis ici parce qu'il y avait un message qui vous parle. D'accord? Donc le message existait bien avant que vous soyez là. C'est le message qui vous a rassemblé. Enlève le message, qu'est-ce que vous faites? Chacun y va dans son coin. Vous n'avez aucun lien entre vous. Après, vous pouvez devenir des copains. Mais qui c'est qui a fait en sorte de vous coller au départ? L'idée première. Est-ce que vous comprenez ce message-là? Si vous ne comprenez pas ça, il y a un problème. Okay? Sinon, c'est comme si tu me disais que cette salle... C'est quoi cette salle? C'est un ensemble de tables, de micros, de feutres, de papiers et de chaises. Oui ou non? Non. Tout ce qui se trouve dans cette salle, c'est parce que cette salle, elle a été créée pour qu'il y ait des cours. Donc le cours de Torah, c'est le klal. Et donc on a fait venir tout ce qu'il faut pour réaliser ce corps de Torah. C'est bien? Donc, la chaise qui se trouve ici, c'est la chaise de la classe du cours. La table de la classe du cours. Le micro de la classe du cours. Les livres de la classe du cours. Les élèves de la classe du cours. Donc, le cours a précédé tout le monde. C'est clair? Sinon, vous n'avez aucun lien entre vous. Eh bien, c'est la même chose. Le klal Israël a précédé les détails d'Israël. Et c'est ce qu'on appelle la neshama de ce peuple. Cette neshama, quand est-ce qu'elle a été créée? Avant ou après la création du monde?
Avant
la création du monde. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu a déjà créé cette âme avant même que le corps d'Israël n'apparaisse. Le corps d'Israël va commencer à apparaître chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, et tout doucement, on va choisir qui va conduire cette neshama qu'Akadosh Baruch Hu avait déjà au préalable. Jusqu'au moment où les enfants de Yaakov, tous ensemble, vont être les corps maintenant qui vont porter cette ségoula, cette neshama d'Israël, et eux vont avoir des enfants qui vont avoir des enfants, et maintenant vous êtes assis dans ces chaises-là ici au Machon Meir. Vous êtes tous les enfants, nous sommes tous les enfants de ces 12 tribus. C'est-à-dire qui sont les véhicules, chacun de nous reçoit en lui un rayon de cette grande neshama. Donc quel est ton rôle dans ta vie? Toujours de jouer le rôle de cette grande neshama. Tu n'es pas là pour faire du cinéma à toi tout seul. Tu n'es pas là pour ta propre vie individuellement parlant. Tu es là parce que tu joues le rôle de la nation tout entière. C'est vrai? Donc, qui a reçu la Torah? Cette nation. D'accord? Donc, les mitzvot, ce sont des mitzvot de qui? De la nation. Ça n'existe pas des mitzvot individuels. Jamais ça n'a existé. Ça n'existera jamais. Même quand tu mets les tefilines, ce n'est pas une mitzvah individuelle, c'est la mitzvah de la nation d'Israël. C'est la nation qui a reçu la mitzvah. Et toi, comme tu fais partie de cette nation, eh bien, tu appliques les actes de la nation. Donc, chaque mitzvah que je fais, c'est un acte national. Compris ou pas? Est-ce que vous connaissez des fêtes religieuses dans le calendrier juif? Non, ça n'existe pas. Toutes les fêtes du calendrier juif sont des fêtes de la nation d'Israël. Ça ne veut rien dire une fête religieuse. C'est une fête de la nation. Pessah, je fête Pessah parce que la nation d'Israël a eu son indépendance d'Égypte. Vous comprenez? Donc les gens me font rire lorsqu'ils croient qu'ils ont une mitzvah individuellement parlant. Ça n'existe pas, c'est faux. Et donc qui fait qui? C'est la nation qui fait des mitzvot. Et non pas les mitzvot qui font la nation. On est d'accord? Si je prends un goy et je lui mets les tefilines, il ne va pas pour autant devenir juif. Mais si je prends un juif je peux lui mettre les tefilin. Donc qui est avant qui? Le fait qu'il soit juif, donc il appartient à la nation d'Israël. Donc aucune mitzvah ne peut me faire. C'est parce que je suis un homme d'Israël que je fais la mitzvah. Ken?
Il y a une question qui peut se poser de temps en temps. Quand je brouille, il a parlé au peuple, mais de temps en temps, il a parlé au niveau de, individuel.
Elle n'existe pas. Donne-moi une
excellente.
Une... Quoi?
Un moment, quand je brouille, il commence à parler au peuple.
Ouais. Tu parles d'un langage à l'individuel et au pluriel?
Ouais.
Ça ne change rien. De temps en temps, il parle aux enfants de la nation, et de temps en temps, il parle à la neshama collective de la nation. C'est la même chose. C'est les enfants de la nation. Donc, tout ce que tu fais dans le judaïsme, c'est parce que tu fais partie de cette nation. Oui ou non?
Non, c'est un enfant.
Bien fait. Donc, de temps en temps, Akadosh Baruch Hu te parle dans un langage yachid, c'est-à-dire, comment on dit yachid en français? Non, singulier. Singulier, et de temps en temps, il te parle au pluriel. Et selon l'endroit, dans la Torah, où Akadosh Baruch Hu parle au singulier ou au pluriel, il faut que tu vois là-bas pourquoi il a parlé au singulier, pourquoi il a parlé au pluriel. De temps en temps, il parle au pluriel parce qu'il y a maintenant, il s'adresse au rayon, on va dire, du soleil, et de temps en temps, il s'adresse au soleil lui-même. C'est-à-dire ? Mais c'est la même chose en réalité. Les rayons du soleil... C'est juste une extraction du soleil. C'est un bras du soleil lui-même. Donc ne te déconnecte jamais de ce soleil. Ne te déconnecte jamais de ce tout. Comme dit la Haggadah de Pessah, « Kola, le fiche hotzi et atzmo minaklal kafar baika. » Si tu es sorti de ce klal, tu as remis en question toute la notion bichlal du peuple. Donc ça n'existe pas. Si j'éteins le soleil, il y a des rayons? Non. Donc les rayons n'existent pas en réalité. Ce sont que des prolongements du soleil. On est d'accord?
Et si une personne se sent proche du collectif, mais pas par la pratique?
Qu'est-ce que ça veut dire, pas par la pratique? Elle vit avec sa nation sur sa terre. C'est déjà un point énorme.
Mais
elle n'applique pas pour l'instant la Torah et les mitzvot. Oui. Eh bien, ça veut dire que c'est un tzaddik au niveau du collectif et un rachat au niveau individuel. C'est-à-dire qu'il n'applique pas les actes de la nation comme il doit les appliquer. Mais il vit au rythme de sa nation, à son niveau. Il est déjà sur sa terre. Ken?
Et qu'est-ce qu'il vaut mieux au niveau aussi l'inverse, de pas vivre,
D'être sur sa terre au niveau collectif, même si pour l'instant tu n'es pas encore au niveau individuel. Pourquoi? Parce qu'au niveau de Chutz La'aretz, en dehors de la terre d'Israël, tu prends un risque énorme d'assimilation. Ce sont des chiffres, donc ce n'est même pas la peine de discuter. C'est 80 à 85% d'assimilation. Donc tu ne peux pas garantir que ton fils que tu es en train d'élever maintenant ne va pas se marier avec une fille qui va être Goya. Et là, tu n'auras pas un juif faible ou pas religieux. Tu auras une équipe de Goy qui va sortir de son union. On est d'accord? Donc ils sont morts. Donc je préfère un juif vivant qui n'applique pas encore la Torah et les mitzvot, mais il est vivant. Et parce que lorsqu'il est vivant, je peux l'amener à un cours et le persuader de faire la Torah en 5 minutes. Mais s'il est mort, il est mort. Je ne peux pas faire d'un goy juif. À moins que lui veuille se convertir, c'est autre chose. Vous comprenez le problème? Donc je préfère un vivant qu'un type qui croit qu'il est vivant, mais en réalité, au niveau du collectif, il est mort. Pas par hasard que le prophète Yehezkel appelle le judaïsme de l'exil Atzamot Yeveshot, des ossements desséchés. Ve'otzeti etchem mikivrotechem, je vous sortirai de vos tombeaux. Ça veut dire que l'exil est un grand cimetière. Ve'heveti etchem el admatrem, et je vous ramènerai sur votre terre. Okay? Plein de versets, des kilos de versets, okay, qui nous prouvent que notre place est ici. Et que si la Torah suffisait en exil, la Torah elle-même se serait terminée dans le livre de Shemot, dans la paracha de Yitro, puisque c'est le don de la Torah. Une fois que j'ai reçu la Torah sur le mont Sinaï, on peut arrêter la Torah, d'après cette vision des choses. On est d'accord? J'ai la meilleure yeshiva, la meilleure Torah, le meilleur rabbin du monde, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de la terre d'Israël? Eh bien, HaKadosh Baruch Hu dit, Rav Lachem Shevet Ba'azeh, vous n'avez rien compris? Ce n'est pas la Torah. Je ne vous ai pas demandé de devenir un peuple de religieux. Je vous ai demandé de devenir une nation. Et une nation, tu peux ne devenir une nation que sur ta terre. C'est la première parole qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham. Lech lecha el haaretz. Asher areka ve'esra legoy gadol. Pourquoi? Si Akadosh Baruch Hu veut qu'Abraham devienne un grand religieux, il aurait dû le laisser là où il était. Et Abraham aurait mis les tefilines aux gens dans les rues et distribué des bénis à Hanouka. Okay? Mais ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait de lui. Il voulait faire de lui une nation, donc il lui a dit, tu ne peux pas rester ici. Pour devenir une nation, il faut que tu sois sur ta terre.
Donc, okay. La première étape, c'est d'être sur notre terre.
Il demande aussi d'être religieux sur notre terre. Bien fait. Ça, c'est la deuxième étape, la troisième, la quatrième. Et si tu veux plus de précision, c'est la sixième étape. Yechezkel 37. Lis là-bas, tu verras que c'est la sixième étape. Je ferai en sorte que vous fassiez mes préceptes, que vous fassiez mes mitzvot. C'est la dernière étape. Hein? Avant ça, c'est d'abord je vous ramènerai sur votre terre. וזרקתי עליכם מים טהורים והסרתי את לב האבן מתוככם ונתתי לכם לב בשר. כן? Et après, והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. Sous-entendu, tant que vous n'étiez pas sur cette terre, je n'étais ni votre Dieu et vous n'étiez même pas mon peuple. Okay? Alors si vous avez le cœur fragile, sortez. Okay?
Et à qui pour on est jugé par rapport
à Vadaï. À quelle distance tu es de ta nation, tout entière. Hatamun, c'est pour ça que la première des prières qu'on fait à Kippour, c'est les Itpalel Imaravarianim. Je fais une prière collective avec tout, même les fauteurs. Première, Kol Nidre. Donc, Hatamun vachabuy beseter astarim, bekodesh akodashim shelo, ve'en shumuma velashon yechola letam'o. Donc, cette neshama, ce point lumineux-là, qu'on a appelé, c'est le titre de notre cours, par Echad shel Shemen, ce point lumineux se trouve où en réalité? En chacun de nous. Mais il est issu d'où? Du point de la nation, du point initial. Et personne ne peut les tamé auto. Qu'est-ce que c'est les tamé auto? Qu'est-ce que c'est Touma? Non. Touma, la racine du mot Touma, c'est quoi?
Boucher.
Atoum. Personne ne peut boucher cette lumière-là. Ça veut dire qu'en chacun de nous, si tu fouilles à l'intérieur de toi-même, qu'est-ce que tu vas trouver? La fiole! Donc le Beth Amikdash, c'est quoi? C'est ton corps. Et les Grecs, c'est qui? C'est le Yetzer Hara qui essaie de t'embrouiller l'esprit en te disant « Mais fais, arrête, sois logique. Arrête de penser à des choses qui viennent du ciel. Franchement, tu penses que la Torah, elle vient du ciel, que l'infini nous a donné un livre avec des notions. Mais arrêtez vos bêtises. Ça commence ici et ça se termine ici au niveau humain, au niveau cérébral, au niveau de la logique. » Vous êtes en train de vous raconter des histoires. Allez vous faire voir chez les Grecs. Et donc le Yetzer HaTov, c'est qui? Les Chashmonaïm. Ken? Les Chashmonaïm. Pourquoi on les appelle Chashmonaïm? Vous croyez que c'est comme ça, c'est tombé comme ça? Il s'appelait la famille machin, Tartampion. Chashmonaïm vient du mot Shmoné. Shmoné vient du mot Neshama. Neshama vient du mot Shemen, ça veut dire que c'est toute la famille qui était de l'ordre du 8. Donc de la Neshama, du Klal Israël, c'est tout. Et c'est Chashmonaim, Chet, c'est aussi 8. Shmonaim, c'est les 8, les 8, 8. Autrement dit, on tourne toujours autour du 8 dans tout ce qui est Hanouka. Et 8, c'est l'huile, Shemen, qui flotte par-dessus tout, c'est-à-dire, encore une fois, je reviens à Pach Echad Shel Shemen. Khatoum, scellé, bekhotamo, par le sceau du Kohen Gadol. Qui c'est le Kohen Gadol? Akadosh Baruch Hu. Il nous a scellé notre Neshama, notre point lumineux, avec un sceau que personne ne peut trouver, aucun grec. Aucun Yetzer Hara ne peut perturber cette place-là. Ça veut dire que quoi que tu fasses, tu vas être le plus rachat de tous les Rechaïm. Il va rester en toi toujours, dans ton Kodesh intérieur, une fiole d'huile, c'est-à-dire ton élément Israël de base.
Après, on parle de détérioration de la
Neshama. Chas Veshalom, qui parle de cette chose-là? Des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est vrai? La Neshama, elle ne peut pas se détériorer, parce que ces gens-là qui te disent détérioration de la Neshama, Demande-leur, alors tu ne dis pas le matin, Elohai Neshama Shenata Tabi Teora. Parce que la tienne, elle est détériorée. Donc la tienne, tu ne peux pas dire Teora, tu es en train de mentir. Et dis-moi, excuse-moi, ma Neshama n'est pas détériorée. Tous les matins, je dis merci à Kadosh Baruch Hu, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Donc autant dire, n'est pas détériorée. Alors qu'est-ce qui est détérioré? Tous les vêtements de cette Neshama qui empêchent son dévoilement. Ça oui, mais pas la Neshama, Chas V'Shalom. Le soleil brille, il rentre par la fenêtre. Mais toi, tu as mis un rideau, tu as détérioré le soleil? Non. Tu as décidé de ne pas recevoir la lumière, tu as fermé les stores. C'est ton problème. Mais le soleil à l'extérieur, il n'a pas changé de couleur. Même si tu peins ta vitre en vert olive, les rayons du soleil vont rentrer dans ta pièce couleur vert olive. Mais le soleil n'a pas changé de couleur. Donc tout le problème, il est dans les ustensiles et pas dans la lumière elle-même. Donc ton Neshama reste toujours pur. Ce sont les vêtements que tu lui donnes qui sont pourris, peut-être. Et ça, il faut que tu fasses attention. Alors les vêtements, ça s'appelle des madim, des instruments, donc des midot. Tikkun midot. C'est tout. On ne peut pas arranger une Neshama, il n'y a rien à arranger dans la Neshama. D'ailleurs, l'acrobate est venu pour dire « Je suis venu arranger votre Neshama ». On lui a dit « Tu t'es foutu dedans, il fallait juste pas dire ça ». Donc tu n'as rien compris. À dégager. Nous, on est venu arranger dans ce monde le corps. La Neshama, il n'y a rien à arranger. Kol Israël, Shlaim Chelek, le Olam Abba. Notre problème, c'est Olam Azé. Le Olam Abba, on l'a tous. On a tous ces degrés de Neshama. C'est ça le Olam Abba qui est en nous. Le problème, c'est est-ce que tu l'amènes dans ton Olam Azé, dans ton corps? Est-ce que tu le révèles ou pas? Alors, combien de liens, combien de kelim, combien de branches nous avons dans ce monde matériel, physique? C'est-à-dire, le monde de la matière, il est basé sur quel chiffre? 7. 7. Et le monde de l'au-delà, c'est le 8. Il y a fait. Donc, on a trouvé la fiole, on a allumé combien? 7 branches. La menorah du Beit Hamikdash, elle a 7 branches. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a rallumé le monde de la matière. Avec quoi? Avec la fiole qu'on a trouvée qui venait du Olam Abba. Donc, le Olam Abba, la Neshama, a rallumé le Olam Azé, les 7 branches. C'est tout. Et si tu ne sais pas où se trouvent ces 7 branches, eh bien, ça se trouve dans tes 2 narines, dans tes 2 yeux, et dans tes 2 oreilles, et dans ta bouche. Ça veut dire que ta bouche, c'est la barre centrale de la menorah. Tu as 2 branches qui sont juste à côté, les narines, 2 branches un petit peu plus loin, les yeux, et 2 branches qui sont les oreilles. Voilà la menorah dans ton corps. Okay? Et qui va éclairer cette menorah? Ta Neshama. Donc tu vas éclairer ta façon de voir, ta façon de sentir, ta façon d'entendre et ta façon de parler et de manger. C'est tout. Une fois que tu as compris tout ça, tu as réglé ta vie. On peut terminer, vous avez tout compris sur Hanouka. C'est fini. C'est ça la fête de Hanouka. Pas de baratin. Sinon, tu t'attaches à la face extérieure, superficielle, tu ne comprendras jamais rien. Pendant 2000 ans, tu vas allumer comme un tembel, une Hanoukia, tu vas allumer des bougies, et tu vas manger des beignets. Okay? Et tu vas chanter Hanouki Aliyesh. Okay? Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as compris de ça? Vous comprenez le problème? Alors pendant 2000 ans, on ne nous a pas enseigné cette Torah profonde. Alors tu faisais des actes. Mais Baruch HaShem, nous avons des grands d'Israël qui nous ont enseigné cette grande Torah dans la Kabbalah et dans la Chassidut, dans la Torah de Eretz Israël. Ils nous ont expliqué comment voir les choses. Ok. Zeh klal anishmati aganuz b'Israël atamun v'achabuy. Donc c'est le klal qui est caché dans notre Neshama. Bekodesh hakodashim shelo, dans son Saint des Saints. Ve'en shum uma v'lashon yechola letam'o. Aucune nation ne peut venir le rendre impur. Donc le boucher. Kantamun sodo shel pach shemen echad. Voilà notre pach shemen echad. Voilà notre fiole d'huile. Un de l'unité echad. Maintenant vous comprenez pourquoi? Parce qu'il est encore lié, ce degré-là, à l'unité divine. Donc tout ce qui est relié à l'unité divine ne peut pas être perturbé, ne peut jamais être cassé. Shematzu achashmonaim ba'echal. Dans où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Dans le echal. Agmara medayek et beomra par echad. Donc l'agmara, elle est très précise dans les termes qu'elle utilise et elle dit par echad. Une totalité. unitaire. Quel est le chiffre le plus total que vous connaissez dans le judaïsme? 1 et les multiplications de 1, c'est-à-dire 1, 10, 100, 1000. D'accord? Quand tu dis à quelqu'un, tu es parfait, 100%. 100%, ça veut dire tout. Quelle est la valeur numérique du mot par? Je vous ai aidé quand même.
100.
Pei, chaf. Pei, 80. Chaf, 20. Ça veut dire 100. Par qui représente Echad, l'unité divine. Kedei l'irmoz lanu ala zgula achdutit. Et ça vient nous donner donc la référence de cette segula de l'unité divine à la neshama aruchanit shel am Israël, de la neshama spirituelle de la nation d'Israël tout entière. Est-ce que vous comprenez ce que vous devez chercher à Hanouka? Vous devez chercher avant Hanouka la fiole. Et elle se trouve où la fiole? À l'intérieur de vous-même. Et c'est qui l'intérieur de vous-même? La nation d'Israël. Qui se trouve où? Sur sa terre. Et lorsque tu reprends ton indépendance, c'est-à-dire que tu vis selon ta véritable identité, donc tu as été sauvé de la mort et tu es venu vers la vie. Donc la Gemara de Psachim, Kuf, Yud, Tet nous dit que lorsque tu sors d'une situation comme ça au niveau de la nation d'Israël, tu dois dire le Hallel complet. Est-ce qu'on dit le Hallel complet à Hanouka? Oui. Pourquoi on le dit? Parce que tu as retrouvé ton indépendance. Rambam nous dit que cette indépendance, elle est restée plus de 206 ans. Yeter al matayim ve'esher shanim. Yeter al matayim shana, c'est exactement 206 ans. 103 avec la malchoute de Hashmonaïm et 103 avec la malchoute de plusieurs rois. Talmai, Agrippas. Bien sûr, ça compte. Et la preuve, c'est que même si ces rois étaient des rois qui pourchassaient tous les rabbanim, qui ont tué tous les rabbanim, qui ont fait des massacres et des trucs, on les appelle encore rois. Et Rambam considère que c'est encore un royaume. Donc n'allez pas me dire que l'État d'Israël aujourd'hui, c'est des Rechaïm et qu'il ne faut pas dire le Hallel, le Yom HaAtzmaout. On est beaucoup moins grave que les Juifs qui sont sortis d'Égypte. Je vous rappelle que les Juifs qui sont sortis d'Égypte, Midrash Rabbah 23, 13, nous dit qu'on était tous des Ovdei Avodah Zara, Gilui Arayot Veshfichut Damim. À tel point que quand les Égyptiens passent et les enfants d'Israël passent, les anges disent pourquoi ceux-là tu les couvres et ceux-là non, les deux ils sont Ovdei Avodah Zara. Alors vous dites le Hallel, tous, autant que vous êtes à Pessah, alors que vous êtes en train de fêter un événement que tous les Juifs qui sont sortis de là-bas, ils étaient. Allez, maintenant tu viens me parler de Yom HaAtzmaout, mais c'était des tzadikim à côté. Donc tu dois dire le Hallel. Mouvan est faux. Maintenant je comprends. Madou anishar oto par shemen. Pourquoi il est resté cette fiole-là? Chatum la'ad ul'olmei olamim bechotamo shel ha'kohen ha'gadol behe ha'yedi'a. Cette fiole, elle est restée scellée avec le sceau de ce grand Kohen, le Kohen ha'gadol, Akadosh Baruch Hu. Ici, c'est une allusion, c'est une, comment on dit, une parabole, une machal venimchal, comment on dit en français, une métaphore. Share medubar kan beremez. ברור על הקדוש ברוך הוא ואשר על כן למרות זאת שפרצו היוונים לבית המקדש ותימאו שם את כל השמנים שבהיכל. Les Grecs sont rentrés dans le temple, ont souillé toutes les huiles ont été souillées, toutes sauf cette fiole là. Ça veut dire tout peut être endommagé sauf cette neshama. הנה לא הגיע ידם התמאה למגע עם אותו פח אחד של שמן. Leur main impure n'est pas arrivée à toucher cette fiole unique. La chen gam lo yachlu le tam meo keivan she atzmutam hi chitzonit bilvad ve yirchokam meod meod min apnimiyut hativit vazgulit shel nishmat Israël. Les Grecs ou tous ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire le Yetzer Hara, il peut atteindre où? Que dans ta partie superficielle, jamais dans ta partie profonde. La preuve, Yaakov Avinu, notre patriarche, quand il s'est battu avec l'ange de Esav, parasha d'hier, Vaishlach, l'ange, il a touché où? À la bride. Okay? C'est juste une façon de parler de la Torah. Ken, la Torah te parle de la bride. En fait, il y a donné un coup là où vous pensez. Et la Torah a dit que c'est la hanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a voulu le toucher où? Dans sa partie qui donne la vie extérieurement. Ça veut dire qu'il ne l'a pas touché dans son intérieur. Le texte le dit. Vayar ki lo yachol lo. Si je ne peux pas te toucher, toi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais toucher ce qui va sortir de toi. D'accord? Donc, il l'a touché dans sa partie basse. À quel niveau? Au niveau de la bride. Quelle est la meilleure mitzvah de l'allumage de la Hanoukia? À quel niveau? Bien fait. Chaque fois que je vous pose une question, je vous aide avant. Ça veut dire que la véritable niveau de la Hanoukia se trouve au niveau de ta bride. Donc quand tu allumes la Hanoukia, tu allumes qui en réalité? Ton Yesod. Tu es en train de protéger ton Yosef Hatzadik. C'est ça que tu allumes. Or, la bride, on l'a fait à quel jour? Ah, c'est bizarre. Maintenant, vous comprenez pourquoi? Tout simplement parce que la 8, l'amnatseach à la Shminit. Shminit, c'est la 8e. La 8e, c'est la Neshama qui est issue de mon corps. C'est-à-dire que je donne naissance à un juif par cette partie de mon corps. Donc, je dois faire attention à ce membre de mon corps et ne pas jouer avec. Et donc c'est ça ma menorah de Hanouka, c'est ça les lampes que j'allume. Vous croyez que c'est des lampes que j'ai achetées à la Makolette? Anerot alalu kodeshem. Ela nous rechute l'ishtamesh bahem. Fais attention comment tu gères ta brite. C'est kodesh. Ot brite kodesh. Rachetevot avak. Vaye avec ish imo. Yaakov et Esav, il y a marqué vaye avec. Vaye avec avak. Ot brite kodesh. Il a voulu le toucher à cette partie de son corps. C'est bien? Qu'est-ce que tu voulais poser comme question?
Ah oui, mais il ne faut pas les claquer.
Merci.
Okay. Non, il a voulu toucher à la bride, il n'a pas réussi à toucher à la hanche.
Non, il a touché à la bride.
Alors c'est pas
c'est une façon pareille.
C'est une façon propre de la Torah de dire que ça.
Mais
le guide anaché, tu sais, il se trouve où le guide anaché? Le nerf sciatique. C'est le nerf de quoi? De la Brit Mila, tu es au courant ou pas?
Non.
Ah ben voilà, c'est ça qui te manque. Mais tu, parce que tu ne sais pas ça. J'ai travaillé dans le dénervage des animaux. J'ai dénervé des animaux. Ok, j'ai enlevé ce nerf, moi.
Il
est relié au guide anaché. Qu'est-ce que c'est guide anaché en hébreu? Qu'est-ce que c'est naché? Ça te rappelle quoi comme Mila? Nashim, les femmes. Guide à Nashim. Tu comprends pas? Tu comprends? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Nom de Dieu. Dis-moi, quand Abraham il a pris Eliezer pour le faire jurer, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis où sa main? Sur sa bride. Simnat yatra tachat yerechi. Là-bas aussi, c'est la même chose. Donc, je te donne une deuxième preuve. Ripolin, deux couches.
Okay.
Tu veux encore une preuve? Ish harbo al yerecho mi pachat balelot. Hine mitatos el ishlomo. Shir ashirim. Je connais pas. Donc. Tu veux une quatrième? Ça veut dire que c'est cette partie de ton corps. C'est ça qu'on allume. Moralité, si je devais donner une forme humaine à Hanouka, c'est qui? La Hanouka que tu allumes, c'est qui? Elle représente qui? Quel homme? Il a fait Yosef HaTzadik. Alors qu'est-ce que te dit Beth Hillel? Pour allumer, vous avez étudié Beth Hillel, alors qu'est-ce qu'il dit? Mosif veolech. Mosif, ça te rappelle?
Yosef.
Mosif veolech. Ça veut dire en réalité, il te donne des allusions, mais si tu n'étudies pas en profondeur, tu te dis, bon, ils ont dit ça pour dire autre chose, une façon de parler. Pas du tout, les chachamim, c'est tout précis. Chaque mot, bismillah. Ken, c'est précis. Donc vous comprenez maintenant, on ne peut pas toucher cette partie. Donc ils vont tout toucher superficiellement. Et comment s'appelle Yosef par rapport à Esav? Satano shel Esav, le Satan de Esav. Et Yosef, il fait peur à Esav. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est Yosef? Quelle est la valeur numérique de Yosef? 156. 156. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire dans 156? Eh bien, 156, ça fait 12. D'accord? Ben, 1, 5, 6, ça fait 12. Ça veut dire que Yosef, c'est la résultante de toutes les tribus. Déjà. Donc, tu dis, elle est Toldot Yaakov, Yosef. Bizarre. Tu aurais dû dire, elle est Toldot Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Non, tu dis, elle est Toldot Yaakov, Yosef. Ça veut dire, lui, il équivaut aux 12. Maintenant, s'il équivaut aux 12, Yosef, il est 156. 156, c'est la même valeur numérique que le mot Tzion. Amachazir Shekhinato le Tzion. Ça veut dire la Shekhina revient à Tzion. C'est quoi Tzion? Le sionisme. C'est le retour à Tzion. Donc quand est-ce que Yaakov décide de rentrer en Eretz Israël? Le jour où Yosef est né. Ça veut dire le jour où le sionisme est né. Donc Yaakov, c'est un sioniste. Oh là là, ça nous gâche tout. Hein? Oh là là, encore c'est sioniste. Mais la Torah est sioniste. Bande de nerveux. La Torah, c'est tout le but, c'est de revenir à Tzion. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Yosef, il est au présent ou au futur? Non. Au présent, c'est Mosif. Yosef, c'est au futur. Ça veut dire, comment je l'appelle? Imaginez-vous si vous aviez un enfant et tu devais traduire le mot Yosef en français. Il rajoutera. Tu peux venir, s'il te plaît? Bizarre comme nom, hein? Il rajoutera. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un homme qui a l'avenir. Il est optimiste. Comme Yitzhak, il est au futur. Ça veut dire que Yosef, il va rajouter, il est encore en devenir. Il a un lendemain qui chante. Il est dans le bonheur total. Mosif veholech, ça va en devenant de plus en plus grand. 8 jours. Au 8e jour, en réalité, quand tu allumes 8 jours de lumière de Hanouka, qu'est-ce que tu as allumé en fait? 8, c'est le chiffre de quoi? De l'infini. Donc en réalité, tu n'as pas allumé 8 jours, tu as allumé l'infini jusqu'à l'infini. Juste parce que ça doit s'arrêter, alors on arrête à 8, mais en réalité, tu peux continuer à 9, 10, 11, 12. C'est ça que ça veut dire. À partir du moment où tu as dépassé 7, tu es déjà dans l'au-delà. Vous avez compris? Ce monde, c'est 7. À partir du moment où tu as dépassé 7, tu es déjà dans l'au-delà. Être rassasié, c'est être dans le 7. D'accord? Comment on dit être rassasié en hébreu? Savea, c'est les mêmes lettres que Sheva. Je suis dans le 7.
Alors, pourquoi on s'arrête si on prend 8 jours pour les familles?
C'est quoi la question? J'ai pas compris. Mon cher ami, le judaïsme de Houtlaaret, c'est un judaïsme précaire et provisoire. Quand le temps est arrivé, il faut revenir. Vous savez pourquoi Yaakov avait peur? Il a fait. Et d'où tu sais? C'est marqué dans le texte. Cite-moi le verset. Va'echar ad ata. J'ai trop tardé jusqu'à maintenant. Va'ira Yaakov me'od va'yetzerlo. C'est pour ça qu'il a une angoisse. Il a une angoisse parce qu'il est resté 6 ans de plus que ce qu'il devait rester. Tu comprends l'angoisse de Yaakov? Et toi, tu restes encore 30 ans là-bas, 4 ans, jusqu'à ce que ma fille, elle quitte l'université. Ah bon? Et quel âge est là? 3 ans. Alors les gens qui nous écoutent sur Internet, eh bien qu'ils sachent que Hanouka, c'est une fête israélienne, à proprement dit. Une fête nationale, une fête de la nation d'Israël, une fête qui est en réalité une victoire de la nation. Et c'est pour ça que l'essentiel de la fête, il est basé sur quoi? Sur la nation qui a réussi à retrouver son indépendance et revenir à une royauté. Et c'est ce que tu dis dans Alanissim. Alanissim, tu rappelles même pas la fiole. D'accord? Malheureusement, on est devenu religieux. Et la religion est née le jour où la prophétie s'est arrêtée. Et aujourd'hui, la prophétie revient. Vous savez? Comment vous savez pas? Pourquoi tu es en Israël? Tu as reçu une prophétie d'Akadosh Baruch Hu qui t'a dit de te barrer, de te monter en Israël, et tu l'as fait. Tu as été prophète. Tu crois que c'est venu comme ça? D'où est venue ta décision de monter? Tu as entendu une voix profonde d'Akadosh Baruch Hu qui t'a dit « Lech Lecha », c'est tout. Non, la preuve c'est que pas tout le monde est ici. Tout le monde entend, mais pas tout le monde prend la décision de venir.
Si une personne avait entendu vraiment l'Akadosh Baruch Hu, elle serait venue.
Mais il a fait. Il faut juste savoir entendre. Décoder ce que tu entends. Être disponible et être à l'écoute. Des fois je te parle. Écoute-moi, tu vas refaire ce cours-là. 1000 fois. À chaque fois, tu vas te dire, mais ça, je ne l'ai pas vu, il n'a pas dit dans le cours d'avant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu étais en dehors du système. Donc tu peux écouter un cours 1000 fois, à chaque fois découvrir encore quelque chose de nouveau que tu n'as pas compris la fois d'avant. Parce qu'on n'est pas disponible. C'est ça notre problème. Tov, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. On continue juste oralement. La menorah au Bet Amigdash, c'est la preuve que la Shrina se trouve dans le peuple d'Israël. Moralité, quand vous allumerez la Chanoukia chez vous à la maison, Motsa et Shabbat prochain, ici, eh bien, en réalité, vous êtes en train de fêter quoi? La lumière de l'infini qui descend dans ce monde. C'est la lumière de l'au-delà, la lumière du 8 qui descend dans le 7. Vous avez compris? Et une fois que tu as compris ce secret-là, mais tu profites de cette lumière sans en profiter, c'est-à-dire que tu dois la regarder, tu dois apprendre par la vision de cette lumière d'où elle arrive. Ce n'est pas une lumière qui vient d'en bas, elle vient d'en haut. Et si elle vient d'en haut, elle vient réaliser en fait Oraganouz, la lumière cachée. L'organisation, Oraganouz, organisée.
Quel? Quand vous dites la lumière du 8, elle est dans le 7.
Il a fait, ça c'est une des versions, Bet Hillel, Bet Shammai. Une des versions, c'est qu'on va commencer par 8, on va arriver vers 7, mais en réalité, tu ajoutes toujours, c'est toujours le 8e que tu allumes. Autrement dit, si tu n'as pas d'argent pour acheter des bougies, combien de bougies tu allumes chaque jour?
Une.
Et laquelle c'est en réalité? C'est toujours la 8e. D'accord? Seulement tu la déplaces, tu as l'impression qu'elle s'éloigne. Mais c'est toujours la 8e que tu rallumes. C'est de la 8e que les autres peuvent être allumés. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du grand soleil que toi, le rayon, tu peux vivre. Enlève le 8, il n'y a plus de 7. Vous avez compris? Donc tous les jours, on se relie une fois de plus au 8. Neshama, Shmoné, Shemen, Mishnah, ce que tu veux encore. Ken, machine. C'est-à-dire Ben Hashmashot. C'est pour ça qu'il faut allumer la menorah de Hanouka vers 4h30 le soir, où le soleil n'est pas encore couché complètement et où les étoiles ne sont pas encore debout, sorties. Pourquoi? Parce que c'est un type qui est en train de perdre en réalité le soleil de sa vie, il perd l'optimisme. Quand au coucher du soleil, tu as l'impression qu'il y a une angoisse, quand le soleil, la lumière est partie, la certitude est partie, l'angoisse commence. Alors on te dit maintenant il faut allumer. Alors je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, que cet allumage vous rallume. Que vous soyez illuminé par cette lumière. Et cette lumière doit vous apporter en réalité joie et certitude de votre étude. Et non plus d'angoisse, plus de dikaon, de dépression, de tous ces mots-là d'aujourd'hui. Hachem Ishmo. Vous savez pourquoi on a des dépressions? Parce qu'on ne sait pas en dépression. On a oublié Tzion.